Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Aujourd'hui, je reçois Fred Sanjou, bonjour. Qui vient nous parler de son premier roman, de son premier livre, Le Vagabond des Abîmes, publié aux éditions Bénévent. Il nous parlera donc de ce livre et puis de lui, de son histoire, de ce pari qu'il a fait pour écrire ses livres. Il nous en racontera plus dans un instant. Dans l'immédiat, comme à l'accoutumée, quelques petites infos autour du livre dans notre ville de Toulouse. Samedi 23 septembre de 10h30 à 12h30 au petit auditorium de la médiathèque José Cabanis au troisième étage, un atelier de lecture de poésie animé par Blandine Poney. Alors il s'agit de rencontrer la poésie contemporaine à travers un choix de textes et sur des propositions simples et de travailler ensemble le dire à haute voix, comment adresser le texte, trouver sa voix, prendre la parole. Donc les inscriptions sont à prendre au 05 62 27 45 24, 05 62 27 45 24. Donc c'est ce samedi de 10h30 à 12h30 si la poésie vous intéresse. Ensuite, je continue avec le mercredi 27 septembre à la bibliothèque Duranty qui se situe 6 rue du Colonel Pellissier à Toulouse. L'heure du conte à 10h30 pour les tout-petits jusqu'à 5 ans. Ne les amenez quand même pas tout bébé. Hein. À partir de 2 ans, je pense que ça suffira. Donc 10h30 mercredi 27. Et ça sera chaque mercredi. Donc un conte sera lu à ces petits bouts. Et puis à 16h30 pour les plus grands, à partir de 5 ans, et ça sera tous les 15 jours. Donc le prochain rendez-vous pour les plus grands à 16h30, ça sera le 11 octobre, mais je vous le rappellerai d'ici là. Donc un numéro de téléphone pour tout renseignement, vous disant déjà que l'accès est libre et gratuit. Donc c'est le 62 27 42 52, 05 62 27 42 52 à la bibliothèque Duranty, mercredi prochain. Ensuite, je termine ces petites infos par le mercredi 27 également à 18h, mais c'est cette fois-ci à la librairie Priva qui se situe 14 rue des Arts. Une rencontre avec l'écrivain Michel Del Castillo pour son dernier roman « La religieuse de Madrigal » aux éditions Fayard Le Seuil. Donc vous connaissez tous cet écrivain qui, à chaque roman sorti, c'est un véritable succès. Donc voilà, son dernier, « La religieuse de Madrigal ». C'est mercredi 27 septembre à 18h pour le rencontrer et discuter avec lui de son livre.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou. Alors je me tourne maintenant vers mon invité, Fred Sanjou. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur vous. Vous faites plein de choses. Déjà votre livre, votre premier livre, il faut quand même signaler qu'il fait quand même 471 pages. Pour un premier roman, c'est
énorme. Bon, j'ai en plus coupé, hein, parce que
il aurait pu y faire plus de pages. Bon, mais c'est 471 pages intéressantes, bien écrites, et puis l'histoire est prenante. Hein, c'est mystérieux, fantastique. On va revenir dessus. Heureusement, voilà. Donc les 471 pages ne se sentent pas au niveau de la lecture. C'est simplement le format, quoi.
Voilà, tout à fait. Impressionnant.
Impressionnant. Donc Fred Sanjou, vous êtes né, vous avez vécu à Paris assez longtemps.
Oui.
Vous êtes Toulousain d'adoption depuis quelque temps.
Depuis trois ans.
Voilà. Mais sinon, votre nom vient d'un petit village de la Bigorre qui s'appelle Loubajac.
Tout à fait.
Donc vous êtes quand même pas loin de chez nous, on va dire.
Tout à fait.
Et puis donc vous avez un parcours assez atypique et assez particulier parce que vous avez été un enfant dyslexique.
Oui, c'est d'où le livre, c'est un pari. Donc dyslexique et bien entendu il a découlé une dysorthographie. Donc un enfer dans le système scolaire.
Surtout qu'à l'époque dans les années 70-80, c'était tout à fait inapproprié à ce problème, et donc vous avez traversé beaucoup de période difficile.
Beaucoup de périodes difficiles à se retrouver au fond de la classe, incompris, que ce soit par les professeurs, les élèves aussi, parce que vous interprétez les choses différemment, vous êtes plus lent à la compréhension, et puis aussi, quand vous êtes au niveau de la dysorthographie, c'est le problème du langage dans l'écrit, et vous interprétez tout mal, quoi.
Oui, donc vous retranscrivez mal également. Donc ce livre, c'est vraiment, vraiment un challenge, un pari, et puis une sorte de thérapie peut-être aussi.
Ah oui, c'est clair, pour moi, ça a été au fond de moi, ça a été une thérapie.
Ça a exorcisé vos démons, vos passages difficiles de l'enfance.
En même temps, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 36 ans, donc il y a 6 ans de ça, le commencement de l'écrit, mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais cette envie depuis très très longtemps, mais j'avais pas les moyens, c'est-à-dire que j'y arrivais pas. Tout ce que j'écrivais avant, c'était affreux, quoi. Donc voilà. Et puis, au fur et à mesure, vous avez ça qui mûrit en fond de vous. Vous vivez comme tout le monde, vous apprenez à enfouir en fond de vous tous les traumatismes, et puis vous vivez, vous réussissez dans d'autres choses, vous arrivez à briller dans d'autres choses. Mais malgré tout, il y a ça qui reste au fond de vous-même.
Il faut le sortir un jour ou l'autre.
Voilà. Donc, je voulais le sortir.
Donc c'est sorti. Ouais. Voilà. Donc oui, parce que vous faites beaucoup de choses aussi, donc vous avez une activité salariée. Donc la dyslexie ne vous a pas empêché de faire une formation de photographe.
Tout à fait, vous êtes
photographe, vous avez une activité salariée. Justement, vous prenez des photos pour des magazines et des pubs automobiles. Vous faites dans l'automobile.
Alors je fais dans l'automobile, mais attention, je ne prends pas de photos. Je ne suis pas photographe.
Oui, vous êtes régisseur de studio photo et vous réalisez la lumière. Voilà.
Tout à fait.
Donc petite précision, tout à fait. Donc activité salariée, vous avez aussi une activité sportive parce que vous êtes passionné d'hydrospeed ou de neve, c'est-à-dire la nage en eau vive.
Tout à fait.
Donc
qui consiste à descendre des torrents, installé dans un flotteur.
Harnacher une combinaison, d'un casque avec des palmes au bout des jambes.
Voilà, c'est le moyen de propulsion, c'est le petit parent du kayak.
Du kayak, voilà, c'est dans le même milieu naturel et voilà, donc sensation forte assurée, j'imagine.
Tout à fait.
Donc voilà, vous transmettez votre passion et vous encadrez. Donc dans un club, donc les passionnés comme vous, les gens qui veulent découvrir cette pratique de sport. Et sinon vous aimez les films fantastiques comme Planète Interdite, L'Invasion vient de Mars, Les Survivants de l'Infini.
Oui, ça c'est.
Vous êtes assez porté sur le côté fantastique.
Fantastique, oui, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant, ayant beaucoup de mal à apprendre, ayant beaucoup de mal à me plonger dans des livres, puisque j'ai vraiment commencé réellement à lire, à me plonger dans des bouquins à l'âge de 13 ans, 14 ans. Avant, j'y arrivais pas, donc j'avais que l'image qui m'intéressait. J'étais uniquement attiré par l'image, et c'est vrai que tout ce qui était fantastique, une vision de science-fiction m'attirait beaucoup.
Et en lecture, voilà, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, ou La Guerre des Mondes de Wells, ce sont les livres que vous avez lus, et on peut dire qu'ils vous ont inspiré, thème du livre, enfin, le thème, disons que le décor, on va dire, du livre, puisque c'est un livre quand même, on va dire, fantastique, hein.
Oui, c'est un livre.
Tout à fait, d'aventure fantastique, d'aventure mystérieuse, donc ça vous a inspiré un peu.
Ah oui, j'étais très influencé, puisque j'ai été marqué par ces films, qui ont bercé toute mon enfance et ma partie de jeune adulte, et donc c'est vrai que porté par ça, j'avais ça en moi, et je voulais rendre un hommage et des petits clins d'œil par-ci par-là de films qui m'avaient touché.
Et il y en a.
Oh, oui, il y en a beaucoup.
Voilà.
Il faut des fois les découvrir, quoi.
Oui, voilà, il faut être aussi un petit peu avoir lu
certains
livres, voilà, pour le découvrir. Mais les œuvres qui vous ont inspiré également, on va les citer, c'est Le Grand Secret des Pyramides de Gizet, de Guy Gruet et de Guy Mouni.
Oui, tout à fait.
Et ainsi que des mêmes auteurs, Gizet au-delà des grands secrets, donc Le Secret des Pyramides.
Oui, c'était un déclic aussi.
Un déclic.
Ces deux livres, deux chercheurs atypiques qui se sont penchés sur une lecture différente du plateau de Gizet. Alors bien entendu, ça pourra faire hurler certains égyptologues. Malgré tout, ils mettent le doigt sur des choses intéressantes. Donc il faut savoir faire le tri aussi dans leurs livres. Mais en même temps, il y a y a quelque chose qui m'a marqué, quelque chose de fantastique aussi.
Oui, 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 tout à fait.
Une réponse différente.
Oui, après, bon, bah, le livre raconte, finalement, après, c'est votre propre, enfin, c'est votre imaginaire, quoi. Voilà, c'est pas, vous relatez pas des faits, mais vous vous inspirez, effectivement, ça vous a marqué, donc, le secret des pyramides, et puis tout le côté fantastique, magique, mystérieux.
Tout à fait.
Donc, le déclic, c'est donc, en gros, la dyslexie, quoi. Vous avez besoin d'exorciser ce problème.
Oui, tout à fait. Oui, le déclic, c'est ça. C'est, j'avais une histoire au fond de moi, j'arrivais pas à la sortir. Je me suis, lors d'une réalisation de production photo, j'étais dans le 14e arrondissement, j'ai découvert les catacombes, j'étais porté par ça, plus l'imaginaire s'est mis en route, et plus la lecture de ces livres, plus mon passé, je dirais, cinéphile, m'ont fait déclencher cette envie d'écrire, quoi, et de mettre à plat toutes les idées.
Voilà, après, ça s'est défilé. Une fois qu'on commence à écrire, on est porté par l'histoire qu'on invente au fur et à mesure. Et...
Ouais, en se battant mot à mot, en se battant sur les mots, quoi, pour bien les écrire.
Ben justement, au début de votre livre, juste avant de commencer, juste avant le prologue que je lirai aussi tout à l'heure, mais vous écrivez d'emblée, donc tout au début de votre livre, je vous cite, hein, « J'ai écrit sous le feu de la passion et l'envie de mettre à plat une histoire que j'aurais aimé lire un jour, simplement, clin d'œil ému au cinéma de genre des années 50 à nos jours, et en souvenir des BD et petits livres de poche trouvés dans les gares, que j'ai lus adolescent, me faisant vibrer et passer de merveilleux moments, plongé dans la solitude qu'était celle d'un enfant dit à problème, dyslexique et dysorthographique. J'ai vécu un enfer en milieu scolaire, comme beaucoup d'enfants dans mon cas, me retrouvant écrasé par un système et une méthode inappropriée. Ce livre est entre autres un pari, et pris au jeu, je vais continuer. » Voilà, ça c'est votre petit approche au début du livre pour expliquer un petit peu...
Le but de ce livre, quoi. Alors c'est sûr qu'on peut le comprendre comme une thérapie, mais en même temps, bon, c'est vrai que ça a été l'envie de... J'ai tellement rêvé au cinéma que j'avais envie, c'est peut-être en moi, sauf que j'ai été retenu par mes problèmes, mais j'avais envie de compter, simplement compter, faire rêver les autres, quoi.
Oui, donc, vous aussi, voilà, d'amener votre petite pierre au plaisir de futurs lecteurs.
Tout à fait.
Et ben c'est très réussi. Si vous voulez, on va faire une petite pause musicale et puis après on rentre un peu plus dans le vif du livre, du sujet.
Tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. And well, the thing is, what I I'm are in the world. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world.
Et nous revoici dans votre émission Page à Page en compagnie de Fred Sanjou pour son premier roman Le Vagabond des Abîmes, publié aux éditions Bénévent. Donc on était en train de parler un petit peu de l'histoire, ce qui vous avait inspiré pour écrire ce livre, et donc d'avoir vécu à Paris non loin des catacombes, ça explique un peu, justement, il y a les catacombes dans votre livre, ça,
c'est lié. Oui, ça explique, et puis je crois que c'est lié aussi à l'inconscient collectif. Dont nous faisons tous partie.
C'est mystérieux, les catacombes. Inquiétant même. Voilà. Un brin inquiétant.
Tout à fait.
Donc voilà, en fait, l'histoire, bon, il y a un peu, on va pas raconter parce qu'il faut vraiment le prendre de, bien le début et puis dérouler le fil jusqu'à la fin donc de ce premier livre, hein, parce que bon, on en parlera tout à l'heure, mais il y en aura d'autres, il y en a d'autres de prévus. Il y a une suite de prévus. Donc voilà, ça part. Il y a le petit Benoît, un lavabo, enfin un siphon de lavabo. Après, il y a les catacombes de Paris avec d'autres personnages comme Yves Descombes, qui est un inspecteur de police qui aime bien un peu les histoires mystérieuses, justement. Avec son beau-frère Christian Duval, qui est aussi le papa du petit Benoît, donc du début. Et puis après, il y a les pyramides de Gizeh qui apparaissent au fil de l'histoire. Ouais. Et puis bon, on va pas en raconter plus parce que ça se raconte pas. Hein, les histoires fantastiques, ça se lit, ça se vit et ça se découvre. Donc on va pas en dire davantage. Donc c'est un livre quand même qui vous a mis 3 ans à l'écrire.
Tout à fait, 3 ans. Bon, bout à bout, le temps que j'ai mis, ça a dû prendre 1 an et demi. Mais c'est vrai que 3 ans, j'ai mis, oui, tout à fait 3 ans pour l'écrire.
Oui, parce que bon, déjà, c'est assez costaud. Puis bon, j'imagine que vous avez une vie quand même assez active. Donc, de trouver du temps pour écrire, en plus de tout ce que vous faites,
c'est pas évident.
Il faudrait des journées de 48 heures, là.
Oui, oui, au moins, ouais.
Donc, si vous voulez, je vais lire le prologue donc de votre livre. Donc, c'est la fin du prologue, hein, en fait. Je vous cite. Et dans 15 000 ans, que diront les hommes et les femmes qui découvriront les restes de cette automobile qui nous fait tant rêver aujourd'hui? Seront-ils à même de comprendre le sens réel de cet objet qu'ils observent? Donc c'est un peu le thème du livre.
Ah, enfin, c'est le thème du livre. Il faut le garder en mémoire jusqu'à la fin, puisque
Lisez bien les prologues, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui lisent pas les prologues. Hein.
Tout à fait.
Donc lisez bien les prologues parce qu'il est important, ils sont importants. Celui-ci est important aussi. Oui, parce que bon, il faut le garder en mémoire pour toute la suite de la lecture du livre. Et donc, vous parliez donc d'une suite. On va en venir là avant de lire un passage tout à l'heure, donc de votre roman. Vous êtes en train d'écrire la suite du Vagabond des Abîmes.
Oui, qui s'intitule La Rampe de Copernic.
La Rampe de Copernic. Pourquoi?
Ça reste mystérieux.
Vous nous en direz plus quand vous reviendrez donc la prochaine fois avec la suite.
Bah,
et apparemment, donc, ça sera une trilogie?
J'espère. Il faut déjà que j'arrive à bout
du deuxième
pour me prouver que le premier, c'est pas un accident, quoi.
Oui, tout à fait.
Voilà, comme ça, je serai vraiment sûr de moi, quoi, de savoir que j'ai écrit et que je peux aller.
Et vous
continuer.
Et que
c'est pas le fruit du hasard. Et puis donc le troisième sera certainement un accomplissement total, quoi. Mais bon, pour l'instant, je me bats sur le deuxième, ce qui est pas évident avec une vie qui est bien chargée.
Ben oui, parce que la fin du premier roman, c'est sûr, quand on referme le livre, on se dit bon, où est la suite? Vite, parce qu'on a envie vraiment de continuer l'histoire.
Ah oui, c'est très
frustrant. Vraiment, un peu.
Oui, très frustrant, mais en même temps, j'ai voulu. Parce qu'il y a quelques films qui se terminent comme ça avec un gros point d'interrogation.
C'est vrai.
Et j'ai voulu.
On est à la télé, on se dit bon, on reste un petit peu pantois là devant sa télé. Bon,
voilà.
Là c'est en l'occurrence devant le livre.
Tout à fait. Et puis je voulais faire rêver surtout. C'est-à-dire que dans la frustration, souvent on essaye de trouver des réponses, surtout quand ça se termine comme ça. Donc.
Ça peut faire réfléchir.
Voilà,
enfin, je veux dire, on y pense, on referme le livre, mais c'est pas un livre qu'on oublie sitôt la dernière page refermée.
Voilà,
parce que ça pose des questions, parce que ça interpelle, parce que voilà. Et c'est vrai qu'on a vraiment hâte de lire la suite des aventures, donc de tous ces personnages.
Je sais, on vous attend.
J'imagine.
Qui veulent avoir absolument la suite. Je récolte un petit peu ce que j'ai semé. J'aurais peut-être dû écrire plus vite le deuxième, quoi, parce que on m'attend au tournant et tout le monde veut.
En même temps que vous faites l'hydrospeed, vous écrivez un peu en même temps.
Les images, des fois, qui bloquent, hein. Et c'est vrai que des fois, on n'écrit pas, mais dans sa tête, on écrit tout le temps. Ça, j'ai découvert ça, en tant qu'écrivain.
Souvent, quand vous faites quelque chose, vous pensez à votre, à l'histoire, quoi, enfin, ce que vous êtes en train d'écrire.
On n'est pas forcément sur notre machine à écrire, à taper sur le clavier.
Mais il vous vient des idées, des fragments de phrases, d'histoires. Et dans ces cas-là, vous les notez, vous les enregistrez?
J'ai pas forcément l'occasion de les noter, donc j'essaye de les garder bien enfouis au fond de moi.
Et oui, pour pouvoir les mettre à plat.
Voilà. Donc des fois, ils ressortent pas, quoi. Donc j'ai des idées qui ont disparu, mais bon. Donc dans l'ensemble, j'essaye de noter, j'essaye de garder en moi toutes ces idées.
Vous voulez qu'on lise alors un petit passage de votre livre? Alors c'est le passage des pages 56-57, donc c'est tout au début du livre, puisqu'on sait qu'il fait 471 pages. Mm-hmm. Vous voulez le lire ou vous voulez que je le lise? Au choix.
C'est comme vous voulez. Ouais.
C'est en fait la conversation, c'est un extrait de la conversation entre Yves Descombes, donc l'inspecteur de police, et les inspecteurs de l'IGC à propos de la grande salle. Ils découvrent une grande salle dans les catacombes, sous le sol de Paris. Et donc, je vais lire donc l'extrait qu'on a choisi ensemble. Donc, 200 mètres de long. Un peu moins de 150 mètres de large, une hauteur de plafond de 80 mètres au plus haut et de 20 au plus bas. Elle fait au bas mot plus d'un million de mètres cubes. Et pas de soutènement, pas d'entre-étage, pas un pilier tourné. Pour moi, c'est une première. « Ah bon ?» répondit l'inspecteur en faisant un ultime pas vers la brèche, plongeant son regard vers les profondeurs où des fourmis blanches s'activaient sous des projecteurs prenant des mesures, des échantillons et des photos. Premièrement, cette salle n'est pas référencée chez nous. Et deuxièmement, si elle n'est pas naturelle, ceux qui l'ont creusée avaient de sacrés moyens, répondit Marc Véché. Pourquoi ? Si vous voulez creuser un trou, vous prenez quoi ? Interrogea Philippe Roukian. Eh bien, je prends une pelle et une pioche. Justement, c'est là où le bât blesse. Quand vous creusez avec une pioche, vous laissez des traces, expliqua Philippe Roukian, qui s'était déplacé vers une des parois de la petite salle pour y passer sa main et caresser du bout des phalanges les innombrables marques. En bas, monsieur, les murs sont lisses, comme vitrifiés. Pour nous, c'est une grande énigme, ajouta Marc Véché. C'est qu'elle est donc naturelle, déduisit le policier. Oui, mais quand même. Lorsque l'on voit cette salle pour la première fois, on ne peut qu'être écrasé par le doute. Elle paraît trop, comment dire ? Philippe Roukian cherchait ses mots. Artificielle ? Compléta Yves Descombes, enthousiasmé par les révélations des deux spécialistes. Oui, artificielle. Mais c'est très dur pour nous de l'admettre, car trois questions nous brûlent l'esprit. Qui ? Quand ? Comment ?
Voilà, ça pose les bases de l'histoire, et c'est là où démarre vraiment le fantastique.
Oui, voilà, parce que bon, avant, avant, bon, comme c'est les pages 56-57, voilà, il y a quelques pages avant, forcément, mais bon, qui mettent un peu le livre en route, mais enfin, c'est là où vraiment que part l'aventure, tout à fait, jusqu'à la 471e page.
Ouais, tout à fait.
Donc, voilà, les personnages clés, bon, ben voilà, c'est Yves Descombes, l'inspecteur de police. Bon, là, on ne parle pas de son beau-frère, mais qui va le rejoindre dans l'aventure. Le papa du petit Benoît, et puis bon, bah, tout un tas de personnages qu'on ne dévoilera pas, parce que bon, voilà, mais des personnages très, très attachants, très extraordinaires, et puis donc une aventure tout à fait fantastique. Donc, Fred Sanjou, vous avez un site.
Oui.
On peut aller voir donc ce que vous faites, votre livre, et puis la suite. Donc, vous parlez un peu de la suite du livre, vous expliquez, et puis vous parlez aussi de ce sport que vous pratiquez, qui est très intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout la Neve, donc nage en eau vive. Voilà, c'est un site assez sympathique.
Complet. Voulait, on va dire culturel, quoi, hein, parlant de la littérature, parlant du cinéma, parlant de mes problèmes que j'ai rencontrés lors de ma scolarité.
Oui, voilà, donc la dyslexie, donc voilà avec.
Et puis du bouquin, quoi, donc. Ça parle du livre, du pari que j'ai pris, de la suite que j'écris, et voilà. Donc,
vous voulez le donner?
Oui, ça, donc c'est www.fredsanjou.com.
Alors Sanjou, S-A-N-J-O-U. Ouais. Voilà. Donc voilà, si vous voulez retrouver l'auteur et puis son livre et puis voilà tout un peu son parcours, vous faites donc www.fredsanjou.com. Et puis donc je vous invite vraiment à lire ce livre, Le Vagabond des Abîmes. C'est publié donc aux éditions Bénévent. Le deuxième sera publié. Sans doute
Bénévent, sinon on verra qui c'est qui acceptera.
S'ils ont accepté le premier, ils ont envie de connaître la suite, sûrement.
Certainement, oui. Ah oui, j'en suis convaincu, oui.
Parce que est-ce qu'il sera aussi gros?
Là en ce moment j'y pense, mais je pense qu'il sera aussi gros. Je peux pas faire plus petit, quoi. Pour l'instant, vu comment j'ai démarré l'histoire.
Vous avez une imagination débordante, voilà. Fred Sanjou.
Voilà, oui.
Il va vous falloir plein de livres pour.
Le problème, c'est que j'ai une imagination débordante, mais il a fallu la déposer sur du papier blanc et ça n'a pas été évident, quoi.
Oui, moi je trouve remarquable. Enfin, je voudrais insister sur le fait que c'est votre premier roman et donc c'était vraiment un pari face à votre dyslexie. Et je trouve que c'est vraiment un message d'espoir pour tous les enfants qui sont dyslexiques.
Ah oui, c'est un message d'espoir. C'est surtout pour les parents, parce que nous enfants, quand on est dyslexique, on se rend pas compte. Mm-hmm. On avance au fur et à mesure dans la vie, qu'on rencontre des problèmes, on se prend des grosses claques. Ça nous permet aussi de nous rendre plus solides.
Forger, d'être plus fort.
Maintenant, c'est vrai que les caractères forts réussissent à mieux s'en sortir que les caractères qui sont moins solides. Ensuite, c'est un message d'espoir, surtout pour les parents, quoi, pour leur dire qu'il y a toujours une voie, quoi, quelque part. Il faut la trouver. Et moi, j'ai mis près de 40 ans pour la trouver, mais bon.
Peut-être qu'actuellement, il y a peut-être plus de, pas de facilité, mais il y a peut-être une évolution positive dans le problème de la dyslexie au niveau de la scolarité.
Il faut dédiaboliser la dyslexie aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des grandes personnes qui étaient dyslexiques. Hein, par exemple, Einstein était dyslexique. Donc,
ça l'a pas empêché d'être Einstein. Voilà.
Et de sortir sa fameuse formule. En même temps, c'est vrai que jusque dans les années 90, on va dire, on laissait pour compte tous ces enfants. Donc, on n'avait pas de moyens, on cherchait pas, on travaillait quand même dessus, puisque moi j'ai quand même passé pas mal de cours d'orthophonie. Donc, dans les années 70-80, on faisait quand même quelque chose.
Mais c'était pas suffisant.
Voilà, on savait pas trop comment en comprendre, alors que maintenant on a un discours beaucoup moins alarmiste et beaucoup moins désespéré en disant que les enfants qui sont comme ça trouveront leur voie dans autre chose, mais pas forcément dans l'apprentissage de la langue par l'écrit, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc un beau message d'espoir pour tous les parents qui ont un enfant dyslexique. Donc voilà, Le Vagabond des Abîmes par Fred Sanjou. Merci.
Merci à vous.
Et puis donc à bientôt pour la suite.
Oui.
Vous reviendrez parmi nous. Moi je vous dis à la semaine prochaine et merci de rester fidèles au programme de Radio Occitanie. Adicia à tous.